France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur les déserts médicaux et les maisons de santé. Alors prenons les choses dans l'ordre. Des déserts médicaux, il y en a un peu partout en France, dans des terres rurales reculées, mais aussi dans certains quartiers des grandes villes et de leur périphérie. Comment y remédier? Avec des nuances, tous les candidats à la présidentielle se disent favorables à la multiplication des maisons de santé qui regroupent sous un même toit différents praticiens et qui permettent donc la coordination des soins. Sur le papier, l'idée est séduisante et semble même couler de source, mais la multiplication des maisons de santé est-elle véritablement la panacée? On pose la question ce soir, intervenez jusqu'à 20h dans ce téléphone sonne.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr pour le courrier électronique, le standard d'Inter 01 45 24 7000. Bonsoir Violette.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Donc je suis contente que vous ayez fait une émission sur le sujet des déserts médicaux. Pour l'avoir vécu, donc j'ai habité aux Anglis dans le 27, dans l'Eure. Les médecins ne montent pas. Enfin, ne vont pas dans les campagnes, ils ne se déplacent pratiquement plus, les visites, et ça fait 10 ans que ça dure, ils ne viennent plus en visite, ils demandent à des gens, et dans les campagnes retirées, ce sont souvent des gens âgés, ils leur demandent de se déplacer. C'est fréquent. Je suis d'une famille où on a pas mal de calculs rénaux, par exemple, et c'est à nous de nous déplacer également, alors que les calculs rénaux, on sait que c'est pire qu'un accouchement, ce sont des douleurs intenables. Il fallait prendre la voiture et aller nous-mêmes à l'hôpital ou bien voir un autre médecin ou conseiller d'aller voir un médecin qui était à 35 km. Mmh. Voilà, c'est un exemple également, les gens déjà âgés qui habitent en face de chez moi, occlusion intestinale, le médecin n'est pas monté un jour, deux jours, une des deux personnes est décédée. Donc une de mes propositions serait, par exemple, que lors des études des médecins, des jeunes médecins, lorsqu'ils font leur internat, ce serait de les rémunérer à hauteur de ce qu'ils font, parce qu'ils font du bon boulot. Et ensuite, on leur permet de les installer, on les aide financièrement afin qu'ils installent un cabinet. Par contre, on ne leur laisse pas le choix on les met dans les déserts médicaux, alors le choix entre ces déserts médicaux, et ce pendant 5 ans. Ensuite, il y aura un turnover, et puis ils pourront aller effectivement là où ils le souhaitent, mais plus tard. Mais qu'il y ait une obligation, qu'ils nous rendent l'appareil. On les rémunère à hauteur de ce qu'ils font, et le gouvernement les installe, on rétribue, mais ils nous doivent 5 années. Ils doivent 5 années
bien compris, Violette. Merci beaucoup pour cette question d'introduction dans ce téléphone sonne. Les invités ce soir, Guy Valencien, bonsoir.
Bonsoir.
Chirurgien, membre de l'Académie de médecine. Vous organisez ce jeudi 23 mars à l'Académie de médecine un débat intitulé « Des déserts médicaux aux oasis de santé ». Vous nous direz dans ce téléphone sonne comment on passe des uns aux autres. Claude Léchère, bonsoir.
Bonsoir.
Médecin généraliste, président de MG France. Véronique Julia, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste spécialiste santé à France Inter. Qui veut répondre à Violette à la fois sur les déserts et la solution qu'elle esquisse, Claude Léchère?
D'abord, on comprend très bien ce que vient de nous dire Violette, parce que c'est ce que nous vivons, nous aussi les médecins. On nous a demandé en 2002 d'arrêter de faire des visites à domicile, parce qu'on en faisait à l'époque 30% de nos actes, c'est-à-dire pas loin de 80 millions de visites à domicile, et on nous a demandé de faire les actes plutôt au cabinet, et donc on est tombé aujourd'hui à environ 25-26 millions de visites, c'est-à-dire entre 2 et 3 fois moins. Alors pour la plupart des situations, c'est tout à fait justifié, et il y a évidemment les situations que Violette décrit, qui sont des situations d'urgence, où aujourd'hui prendre en charge une colique néphrétique, c'est faire une injection intraveineuse, souvent avec une perfusion d'un produit qui est anti-inflammatoire, que nous ne disposons plus en ville. Et donc, la plupart du temps, c'est vrai que ça va se terminer aux urgences, parce qu'en plus, ça fait extrêmement mal et qu'il y a parfois besoin d'examens complémentaires. Mais quand elle parle de l'obligation d'installation, aujourd'hui, Violette ne le sait pas, mais la première ville où on va obliger les médecins à s'installer, vous la connaissez tous, c'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est Paris. Et donc, aujourd'hui, la France entière est devenue un désert médical, sauf quelques exceptions. Et quand on dit qu'il faut obliger les jeunes, c'est comme si on disait que les jeunes choisissent d'aller s'installer au soleil, au bord de la côte, etc. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a 2500 médecins généralistes qui partent en retraite chaque année. Il n'y en a que 1300 à 1400 qui s'installent. Parce que l'exercice de la médecine générale, aujourd'hui, c'est devenu vraiment plus qu'un sacerdoce.
Guy Valencien.
Oui, non, mais j'abonde dans ce qu'a dit Claude Lescher et je reconnais que la personne a posé la bonne question. Cela dit, il y a des solutions. Il ne s'agit pas de faire du faucon yaka, mais on a des moyens à la fois humains et techniques pour régler le problème de ces déserts qui, comme vous l'avez dit en introduction, ne sont pas spécifiques aux campagnes, à la haute montagne, mais on les trouve au centre-ville, à Paris notamment, on les trouve dans les banlieues. Et donc, c'est à nous, on peut s'organiser. C'est un problème de mettre les hommes et les femmes ensemble. Alors, sur le plan du financement des jeunes, payer, les internes sont déjà payés. Les internes sont payés et font des stages en maison de santé. Et je peux vous dire que quand un interne qui veut faire de la médecine générale va en maison de santé, il a très envie, presque deux fois sur trois ou trois fois sur quatre, il a envie de travailler dans la maison de santé où il a été formé. Donc c'est assez naturel. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller payer comme on le fait pour les grandes les écoles comme Polytechnique ou Normale Supérieure où ensuite on doit à l'État puisqu'on a été formé en étant payé. Mais je crois que c'est surtout l'exemple, l'organisation propre avec des studios pour les internes. C'est de plus en plus, les maisons de santé, développent des studios où ils peuvent habiter le temps de leur stage.
Véronique Julia ou...
Oui. Vous êtes contre la coercition. En même temps, ces jeunes médecins, ils n'ont pas envie d'aller dans des déserts tout courts où finalement leur conjoint ne trouvera pas de travail, où il y a pas de supermarché, il y a pas de... Enfin, vous voyez, il y a pas de bus pour se déplacer dans la grande ville. C'est peut-être ça aussi. Donc, pourquoi pas la coercition, donner trois ans de sa vie dans une zone où personne ne veut aller finalement.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, c'est plutôt les moyens d'exercice de mon métier, la médecine générale, qui pose des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je suis médecin généraliste, une fois sur deux, je n'ai pas de secrétariat sur place. Je dois m'occuper des patients, les accueillir, les déshabiller, les rhabiller, les examiner, leur prendre leur rendez-vous quand c'est des personnes âgées. Donc, j'ai besoin, moi, d'une équipe autour de moi, et je ne parle pas spécifiquement de l'équipe de santé pluridisciplinaire que nous avons mis en place dans les maisons de santé. Moi, je travaille en maison de santé depuis 2003, donc bien avant que ce soit à la mode. Mais aujourd'hui, j'aurais besoin d'un poste d'assistant médical. De la même façon qu'un dentiste, aujourd'hui, vous ne pouvez pas lui demander de travailler sans avoir un assistant dentaire. Donc, si vous ne voulez pas donner les moyens aux médecins généralistes de faire leur métier, petit à petit, les médecins généralistes en exercice se découragent. Et ensuite, les médecins généralistes qui aimeraient faire ce métier, qui sont des jeunes médecins, ils disent « je veux bien faire ce métier, mais pas dans ces conditions ».
Alors, ils font quoi, du coup ?
Eh ben, il faut investir.
Ils font quoi, du coup, ceux qui ne veulent pas faire leur métier dans ces conditions ?
Alors, le premier endroit où ils vont, c'est les urgences hospitalières, parce que c'est un métier qui a une certaine attractivité. Le deuxième endroit où ils vont, c'est dans les maisons de retraite, puisque vous savez que maintenant, dans les maisons de retraite, il y a des médecins coordonnateurs.
Ils préfèrent être salariés, en fait.
Alors, être salarié, c'est salarié au libéral, aujourd'hui, c'est plus, on va dire, un problème d'idéologie. C'est un problème de, est-ce que je vais pouvoir exercer mon métier ou est-ce que je vais passer mon temps à faire de la paperasse ? Nous passons 30% de notre temps de travail à faire des actes administratifs qui ne sont pas des actes de soins. Libérez-nous ces 30% de travail et nous pourrons accueillir 30% de patients en plus, ce qui réglerait déjà une grosse partie du déficit en médecins généralistes.
Un mot, Guy Valencien, et on retourne au standard.
Oui, vous parliez du fait que les jeunes ne veulent pas aller se mettre, je dirais, les pieds dans la glèbe de la campagne profonde. Il faut bien voir que les médecins généralistes, à l'époque, ceux que j'appelle les hussards blancs de la République, qui ont donné corps et âme à 70-75 heures par semaine de travail tous les jours, étaient accompagnés souvent de leurs épouses qui ne travaillaient pas et qui ouvraient, répondaient au téléphone, s'occupaient un petit peu de la paperasse. C'est fini ça, parce que vous avez maintenant en faculté de médecine en première année 70% de femmes. Elles vivent avec qui ? Avec des compagnons ou des maris qui ont le même niveau au point de vue des études et vous n'allez pas les mettre dans la campagne. En revanche, on peut les déplacer. Moi, je suis chirurgien, j'ai passé ma vie à faire 18 km dans un sens et 18 km dans l'autre chaque jour pour aller dans mon hôpital. Donc, on peut très bien habiter une ville de moyenne importance où vous avez exactement les collèges, les éléments un peu de la vie plus, peut-être plus ludique et culturelle. Et puis, vous allez vous déplacer. Moi, je connais des maisons de santé. À la maison de santé de Blétrans, elle est à 15 km de Lons-le-Saunier. Il n'y a pas un médecin qui habite Blétrans. Ils sont tous à Lons-le-Saunier. Et ils vont chaque jour travailler à Blétrans.
Bonsoir, Claudine.
Bonsoir.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci beaucoup pour votre excellente émission et bonjour à vos invités.
Bonjour.
Alors, moi, j'habite la Creuse. Votre émission m'a interpellé parce que vous étiez déjà en Creuse il n'y a pas très très longtemps, France Inter. Et elle m'a interpellé parce que les maisons médicales, nous en avons en Creuse. Et je trouve que c'est une solution excellente. Il faut que ça se développe parce que nous sommes un territoire où il n'y a pas un nombre d'habitants énorme, d'une part, et d'autre part, les médecins également. Mais bon, il n'y a pas que dans les zones rurales, hein, dans les grandes villes aussi, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas qu'en campagne qu'il n'y a plus de médecins. Donc cette solution, moi, je trouvais qu'elle est excellente. Et ça me rappelait quelque part mon enfance où nous avions des dispensaires. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de gens, mais...
Ça parle à Guy Valencien.
Oui. Voilà. Et ces dispensaires, c'était des maisons médicales. Hein. Bon, ils n'avaient peut-être pas le même... les mêmes objectifs, les mêmes médecins et autres, ou la même fonction, mais ça ressemble quand même quelque part à ces dispensaires. Et pour, je voulais juste rebondir, après, voilà, rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport aux médecins qui s'installent en campagne. Il faut aussi arrêter un petit peu de dire que la campagne, c'est la mort. Il y a d'autres choses que les cinémas, qu'on peut faire plein de choses en campagne. Il y a une vie, moi je habite en Creuse et je vous assure qu'il y a une vie associative, il y a une vie culturelle d'une densité, d'une richesse incroyable. Donc les gens qui veulent venir s'installer en Creuse, bien sûr que ce sont des choix de vie, mais également on peut faire plein de choses en Creuse. Et en plus, on a un environnement magnifique.
Là où était Georges Sand, hein, c'est ça.
Merci Claudine pour votre intervention. Guy Valencien, les dispensaires, disait Claudine.
Oui, mais on a connu
ça. C'est à peu près la même chose, expliquez-nous.
Moi j'ai connu, quand j'étais interne, il y avait à l'hôpital Necker, ce qu'on appelait la consultation porte, où vous veniez consulter sans rendez-vous, et on assurait des soins, c'était pas forcément de l'urgence, mais les gens, c'était comme ça. Ça a été fermé, et ça a été transformé dans des services d'urgence, qui pour beaucoup... ne s'occupe pas véritablement d'urgence. Il y a un certain nombre d'actes qui ne sont pas vraiment urgents, sauf peut-être dans la tête, et qui encombrent les urgences. Mais ça a existé. Et puis il y a eu des dispensaires, il en existe encore des dispensaires, notamment des dispensaires mutualistes ou municipaux, qui ont aussi une part de médico-social et d'intégration des gens dans la société. Donc oui, la maison de santé, je ne sais pas ce qu'en pensera Claude Lécher, mais il y a une partie médico-sociale évidente dans la médecine générale, c'est même... l'essentiel. Donc, il y a une partie de dispensaire.
Claude Lécher.
Alors d'abord, je suis un amoureux de la campagne, puisque je suis installé à la campagne, et moi, je voulais faire de la médecine générale, et je n'imaginais pas la médecine générale ailleurs qu'à la campagne. Deuxièmement, je suis au pied du Vercors, donc je confirme qu'être en Creuse ou au pied du Vercors dans la Drôme, c'est vraiment la vie rêvée dont que je voulais et que je me suis construite. Ensuite, je vais corriger ce que vient de dire Guy Valencien. La médecine générale, c'est pas du médico-social. La médecine générale, c'est d'abord s'occuper des gens dont la vie est en jeu, quoi. Des cancers, des diabètes, des maladies de Parkinson, des maladies d'Alzheimer, etc., etc. Mais le côté médico-social est une composante importante que nous ne négligeons pas.
Expliquez-nous exactement ce que ça veut dire.
Ça veut dire que, par exemple, si je veux maintenir à domicile une personne âgée dont le mari vient de décéder, il faut que je m'occupe de savoir comment elle mange. Parce que si elle ne peut pas se déplacer pour aller acheter à manger, c'est pas moi qui va faire ses courses, bien entendu. Mais je dois me préoccuper de l'environnement de vie de la personne. Je dois me préoccuper de savoir si elle a une aide ménagère. Je dois me préoccuper de savoir si elle doit ou pas bénéficier d'une APA, une aide pour la perte d'autonomie. Et donc, le côté médico-social est une composante essentielle. Je ne peux pas garder à domicile des gens si je n'ai pas avec moi des infirmières qui vont s'occuper des soins courants. Si j'ai pas un pharmacien qui va apporter le matériel nécessaire. Si je n'ai pas un kiné qui accepte de se déplacer à domicile si elle se fait une fracture de hanche. Donc c'est ça aussi la maison de santé pluriprofessionnelle, c'est ça formalise et ça montre de façon évidente à tout le monde que la coordination entre les professions différentes et qui est une coordination sans hiérarchie, c'est ça l'essentiel de la qualité du travail que nous faisons pour les personnes âgées notamment, mais une maman qui vient de rentrer à domicile avec des enfants et qui a eu un problème de santé lors de l'accouchement, là aussi, elle a besoin d'une ADMR avec une aide familiale qui va l'aider à domicile. Et donc, nous sommes, dans cette articulation permanente. Mais notre travail principal aujourd'hui, c'est des patients qui ont des maladies chroniques, qui sont tellement bien soignés dans le système de santé français, il faut lui rendre hommage à ce système de santé, qu'aujourd'hui, la durée de vie augmente. Et nous, on en est au troisième ou au quatrième cancer diagnostiqué, soigné et la plupart du temps guéri. Donc il faut bien comprendre qu'on a vécu une révolution. Aujourd'hui, un mélanome métastasé, c'est-à-dire un cancer de la peau grave avec des métastases, on le guérit depuis un an et demi, pas depuis 10 ou 15 ans. Donc les progrès sont fantastiques. Nous soignons à domicile des gens qui vraiment ont des pathologies extrêmement lourdes.
On retourne au standard. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
On vous écoute.
Oui, voilà, je suis directeur d'établissement hospitalier à Saint-Lô, dans la Manche, et un directeur d'un hôpital France-États-Unis qui a des relations régulières avec les Américains. Je reçois régulièrement des étudiants américains qui payent 50 000 dollars par an, donc 46 000 euros, les études de médecine, et ils sont extrêmement surpris de constater qu'en France, les études sont, on va dire, quasiment gratuites. J'ai ma fille moi-même qui est en cinquième année de médecine, et elle paye 260 euros les frais d'inscription à l'année. Aux États-Unis, lorsqu'ils ont une une bourse, ils doivent plusieurs années de leur vie, qui payent leurs études, donc de plusieurs années de leur vie, dans des États américains qui ne sont pas forcément attractifs, comme le Minnesota, le Wisconsin, mais en tout cas pas Washington ou Orlando. Je pense qu'en France, on pourrait, puisque les mesures incitatives montrent quand même leurs limites, demander aux étudiants en médecine à la fin de leur cursus de passer 3 ans dans, pas forcément la campagne, mais en tout cas des petites villes, de régions pas forcément les plus attractives, et tous les internes à qui j'en parle trouvent que ce n'est pas une remise en question de la liberté d'installation, et je pense que plusieurs de ces jeunes qui s'installaient 3 ans dans la Normandie ou dans la Creuse ou dans d'autres régions trouveraient sûrement de l'attraction à être dans ces régions-là. Et il n'y a pas que les problèmes de médecine libérale, il y a aussi des problèmes de la médecine hospitalière et plusieurs hôpitaux en France souffrent effectivement de ce manque de médecins.
Mmh. Merci beaucoup Thierry, Guy Valencien. Pourquoi on le fait pas alors? Ça a l'air de couler de source.
Mais non,
hein.
mais non, ça ne coule pas de source parce qu'à ce moment-là, toute étude supérieure, c'est la même chose. Vous faites votre droit, l'inscription est au même prix. Donc l'avocat devra rembourser. Je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut. On a effectivement un étudiant en médecine coûte 10 000 euros. À peu près entre 10 et 12 000 euros par an. D'accord. Et on lui fait payer 260 euros. Donc l'État paye. Mais c'est vrai pour toutes les études supérieures. Donc à ce moment-là, tout le monde a la même ancienne. C'est
oui, ce que veut dire le directeur là. Le droit ne soigne pas le cancer encore.
Non, mais attendez, ce que veut dire le directeur, c'est que je reprends ce que je vous disais, c'est qu'il y a des études, quand vous faites Polytechnique, vous êtes payé pendant vos études. Vous êtes payé. C'est pas l'externe avec ses 150 euros qui va être payé. L'interne, c'est pas des études. L'interne a une fonction à l'hôpital déjà. Donc il a une responsabilité. Et je pense que ce n'est vraiment pas pour moi la solution parce que à
mais
ce moment-là.
Quelle est la solution si y aller de son plein gré, ça marche pas, et si forcer, on peut pas?
Non, mais attendez. La comparaison avec les États-Unis, effectivement, à 40 000 euros de l'année de faculté de médecine, il faut voir ce que ça représente à la fin. Et vous avez des gens qui mettent jusqu'à 40-45 ans pour rembourser leurs études. On n'est pas du tout dans le même système. Je crois que ça n'a jamais marché, la coercition.
Et la crainte
Véronique Julia.
La crainte que vous avez aussi, c'est qu'avec la coercition, les étudiants ne choisissent plus la filière médecine générale, qu'ils ont déjà de plus en plus de mal à choisir.
Oui, Claude Lescher.
Si vous voulez faire de la coercition, ça voudrait dire que vous avez un excès d'étudiants, un excès de médecins qui finissent leurs études et qui choisissent de ne pas s'installer ou de ne pas aller là où on les demande. C'est pas comme ça que les choses se présentent aujourd'hui. Et Thierry comme Violette font la même erreur. On n'est pas dans un excès de médecins généralistes en capacité de s'installer, on est dans un défaut. Je vous donne 2 chiffres. 19 000 postes au choix de l'internat pour la médecine générale. 7 ans après, 4 800 médecins généralistes inscrits à l'ordre des médecins. Que sont devenus les 15 000 autres? Il y en a 4 000 où les postes n'ont pas été choisis, les gens ont préféré redoubler que choisir la médecine générale. Vous en avez 5 000 qui se sont réorientés via la médecine générale vers une autre spécialité, médecine d'urgence gériatrie, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et dans les 10 000 qui restent, il y en a 5 000 qui prennent des postes de médecins généralistes ailleurs que dans les cabinets où on les attend. Donc ils prennent des postes dans les EHPAD, ce qu'on appelle les maisons de retraite, ils prennent des postes en PMI, ils prennent des postes comme médecin conseil à la sécurité sociale.
Et qu'est-ce et qu'on fait alors 5 000. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un téléphone sonne ce soir, c'est formidable. Alors, on échange sur les déserts médicaux de manière théorico-pratique et dès qu'on dit il faudrait faire ci, on pourrait faire ça, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut augmenter le temps médical disponible.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que moi, si je travaille 70 heures dans mon cabinet, je passe 30% de ce temps de travail à ne pas recevoir de patients. D'accord? Donc, ça fait 21 heures pendant lesquelles je travaille et je ne reçois pas de patients. Si quelqu'un fait ses 21 heures à ma place, je veux bien, peut-être pas travailler 21 heures, mais en tout cas au moins faire une quinzaine d'heures supplémentaires et accueillir plus de patients. Moi, je suis un peu particulier puisque je suis président d'un syndicat et donc je travaille 2 jours par semaine à Paris. Mais sur les 3 jours et demi de travail que j'ai dans mon cabinet, j'ai 850 patients plus environ 200 enfants. Donc j'ai à peu près 1000 patients à m'occuper. Je veux bien en prendre 500 de plus. Mais il faut qu'on me libère du temps pour le faire. Si vous ne voulez pas me donner de secrétariat, nous sommes 5 médecins et nous avons 1,5 poste de secrétariat pour 5 médecins. Mais quand ma secrétaire arrive à 8h30, elle décroche le téléphone. Après, elle ne peut plus le raccrocher. Elle passe d'un appel à l'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je lui demande de plus? Elle ne peut pas m'aider à remplir les dossiers. Elle ne peut pas reconvoquer mes patients qui n'ont pas fait le vaccin. Les gens, ils doivent faire du dépistage pour cancer du côlon. Ils ne le font pas. Il faudrait qu'on les appelle pour leur demander pourquoi ils ne le font pas. Bref, j'ai besoin de logistique autour de moi pour pouvoir me concentrer sur mon travail.
Guy Valencien.
Oui, alors que faire? Il y a plusieurs choses. Premièrement, on peut déléguer une grande partie de nos actes, même le chirurgien que je suis, peut déléguer une partie de ses actes à des personnels dédiés qui subiraient une formation complémentaire d'un an pour passer du niveau licence au niveau master. C'est tout à fait faisable, car il y a beaucoup de choses qui peuvent être traitées par des personnels non médicaux dans ce que nous faisons en termes de médecine. C'est une première chose.
Mais quoi, par exemple ?
Mais il y a des choses très simples. Vous savez, aujourd'hui, avec une application, je peux regarder exactement moi-même si j'ai une otite ou pas, hein, avec l'application.
Donc une infirmière, ouais,
une infirmière
ferait ces tests-là.
Une infirmière qui peut vous aider, mais qui est en connexion avec le médecin. Le médecin n'est pas obligé de faire tous les actes diagnostiques et thérapeutiques. C'est un problème de délégation. Il y a un tas de choses très simples que l'on voit, qui sont évidentes, que les malades savent eux-mêmes, qui peuvent être aidées, premièrement. Deuxièmement, à partir de ces plateformes sanitaires, en gros, que sont les maisons de santé regroupant les professionnels, on peut très bien avoir dans les villages, ou dans les banlieues, ou dans le centre-ville, des cabinets secondaires, hein, où le médecin vient à la semaine. Que je sache, se nourrir est vital, et il n'y a pas un marché tous les jours à Cajard. Bon, il est le mardi. Et puis on peut se dire que dans tel village, c'est le mardi le médecin, le mercredi l'infirmière, le jeudi un autre professionnel. Et c'est un problème d'organisation du business, plus l'utilisation des systèmes de télémédecine. Alors on me dit, mais il y a des campagnes et des zones où effectivement les portables ne passent plus. Très bien, moi j'ai organisé un camion de détection sanitaire dans la Thiérache, à Hirson, là où il n'y a personne. Il n'y a même pas de quoi, il n'y a même pas d'antenne téléphonique. Donc on avait mis un téléphone satellitaire avec un rétinographe. C'est une infirmière qui passait dans les villages en relation avec les mairies et les médecins généralistes. Elle détectait des diabètes avec son appareil oculaire, l'image étant envoyée au CHU. On a tous les outils aujourd'hui. Les familles communiquent avec leurs enfants tous les jours par Skype, à s'échanger, à se faire des bisous. Et quand c'est de la médecine, on refuse d'avoir le médecin sur un écran. Il va falloir faire comprendre aux gens qu'on peut bouger un peu les choses. Parce que la clientèle, vous la connaissez. Un généraliste, il connaît sa patientèle. Il connaît Georges et Marcel depuis l'arrière-grand-père jusqu'au petit-fils. Donc, il n'y a pas besoin tous les jours d'être en présence.
Mmh. Oui, Claude Lécher, et puis on retourne au standard. Fabien nous attend.
Alors, simplement, ce qu'on dit sur la télémédecine, par exemple, solution soi-disant miraculeuse, n'oublions pas qu'il y a besoin d'un médecin. La télémédecine, ça se fait avec un médecin. Et donc, quand on a regardé le tympan, quelle que soit la technique avec laquelle on le regarde, il faut prendre une décision. Donc, aujourd'hui, on est bien sûr dans des problèmes d'organisation. C'est pour ça que nous, on a inventé, par exemple, les infirmières azalées. L'infirmière azalée, c'est quoi? C'est une infirmière qui nous aide à suivre nos patients diabétiques. Donc, on renforce la qualité du service. Ça me libère un peu de temps. L'infirmière, elle s'occupe aussi de faire la détection des troubles de mémoire et donc de détecter oui ou non il y a un problème d'Alzheimer. Donc, on a déjà commencé à faire ça. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État nous contingente. On a 400 infirmières azalées, il nous en faudrait 4000. Alors, qu'est-ce que l'État attend? Et nous, on a besoin d'investir. 38% de la dépense en France en santé, c'est l'hôpital. L'Allemagne, c'est 29%. Eh bien, l'écart nous empêche d'investir sur les soins de proximité, les soins primaires que la population réclame.
Fabien, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans le téléphone sonne.
Merci. Donc je vais vous présenter ma situation, je vais essayer d'être bref. Je suis interne en médecine générale, en toute fin de cursus, et je ne vais pas forcément être le meilleur exemple des choses dont je vais parler, puisque je vais m'installer en campagne cet été. Mais y a deux sujets sur lesquels j'aimerais réagir. Le premier, c'est sur les maisons de santé, sur la multiplicité de la création de ces maisons de santé. Il y a plusieurs exemples dans la région dans laquelle je m'installe de maisons de santé qui ont été créées sans forcément l'avis des praticiens environnants, ni même sans savoir si des médecins allaient venir s'installer dans cette maison. Les murs ont été créés sans l'avis des professionnels qui seraient susceptibles de venir y travailler. Ça me paraît un petit peu compliqué. La deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, c'était sur l'intervention de votre première auditrice, dont j'ai oublié le prénom,
Violette.
Voilà, qui parlait de l'obligation de l'installation de médecins en tout début de cursus, enfin après l'internat. Voilà, faut avoir en tête que les études sont assez longues, qu'on arrive sur le marché du travail, si on peut parler comme ça, en moyenne à 27 ans. Souvent, on a des petits parcours un peu chaotiques. On prend une année sabbatique parce que voilà, les études sont longues. Pour mon cas, voilà, moi j'ai 30 ans et donc je vais m'installer à 31 ans. Et par conséquent, on a souvent une vie de famille. Là encore, c'est pas forcément mon cas, mais voilà, souvent.
Oui, on peut pas forcer la famille entière à aller s'installer quelque part, c'est ça.
D'une part, on peut pas la forcer. Il faudrait aussi que, d'un autre côté, il y ait aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir la recevoir en termes de d'école, de crèche, de voilà. Mais donc voilà, je vois que le problème est un petit peu plus profond. Et on pourrait reparler de la désertification des campagnes, mais en termes général.
Oui, bien sûr. Merci Fabien. Sur la désertification des campagnes, Daniel de Lille nous dit, Véronique, vous posiez la question tout à l'heure, pour quel motif un médecin irait s'installer dans un désert tout court? Dans ces endroits, il n'y a plus rien. Comment voulez-vous attirer les médecins de cette façon? Alors donc, le téléphone sonne, est en train de se mordre la queue, on n'a pas avancé d'un centimètre. Guy Valencien, tous les candidats à l'élection présidentielle en débat hier soir disaient que les maisons de santé étaient formidables pour régler le problème des déserts médicaux. Est-ce oui ou non le cas?
Mais non, pas toutes. Vous voyez bien ce qu'a dit le.
Il y a des coquilles vides.
Mais oui, parce qu'il y a des cas où les maires veulent absolument créer, parce que le médecin est parti à la retraite, qu'il n'y a pas de remplaçant, et eux se disent, pour être élu, la population râle, il faut absolument que je crée l'immeuble. Alors il repeint, et puis il s'aperçoit que les professionnels, eux, ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas discuté entre eux d'un projet commun, et ça ne marche pas. Et on va chercher un médecin roumain à 80 000 euros du chasseur de tête qui se barre 3 mois après parce qu'il a le mal du pays. Voilà, il y a un peu...
Non mais alors qu'est-ce qu'on fait dans la cinquième puissance mondiale, Guy Valencien, pour régler ce problème, si on a tous les ingrédients pour le faire et qu'on crée des coquilles vides de médecins?
Je reviens aussi, pardon, je vais vous répondre, Nicolas.
J'ai
en partie répondu, mais la deuxième proposition qui est celle de mettre les jeunes. Donc vous allez avoir deux populations de Français. Ceux qui sont traités par les tout jeunes qui arrivent sur le marché, et puis ceux qui sont traités par les seniors qui ont quand même, qu'on le veuille ou non, plus d'expérience. C'est absolument inégalitaire.
Donc il vaut mieux rien.
Mais... Non, je vous l'ai dit.
Plutôt que des jeunes,
mais
rien.
Mais
au moins,
non,
comme ça, il n'y a pas d'inégalité.
Il y a 1000 maisons de santé qui ont été créées en France, il en faudra 8 à 10 000. Vous allez voir que ça va se développer comme des petits pains, parce qu'il y a une prise de conscience des politiques locaux. Les médecins jeunes veulent travailler ensemble avec les autres professionnels de santé en collaboratif, et on a les outils de la télétransmission. Avec ces trois clés-là, dans les 10 ans, on aura totalement changé le paysage.
Véronique ?
Quand la maison de santé est bien organisée, les jeunes, ils ont envie d'y venir. Alors expliquez-nous peut-être ce qu'ils viennent y trouver. Parce qu'effectivement, beaucoup de maisons de santé bien fichues nous ont dit, nous on n'a aucun mal à recruter des jeunes médecins.
Mmh, Claude Lécher.
Alors d'abord, je voudrais revenir sur la colère que Nicolas Demorand exprime.
Elle est sincère.
Et non seulement je la comprends, mais elle est sincère. C'est exactement la colère des médecins généralistes en France aujourd'hui. Parce que d'un côté, on n'a pas voulu investir sur les soins primaires, sur la médecine générale, qui a été la dernière roue du carrosse de l'internat, qui était la voie royale pour tout le monde. Et ceux qui étaient généralistes, c'était ceux qui étaient en échec. Moi, à l'époque, j'ai choisi de faire la médecine générale, parce que très sincèrement, c'est sûrement le métier le plus intéressant. Notre colère à nous, elle vient du fait qu'on n'a jamais voulu investir dans la médecine générale, et que la France a développé son système de santé autour des hôpitaux. Elle a bien fait de le faire, parce qu'on a des hôpitaux de très bonne qualité. Mais il y a deux fois trop de lits d'hospitalisation en France, il faudrait moins utiliser l'hôpital et investir sur la ville. Si vous ne voulez pas investir sur la ville, à un moment donné, les jeunes médecins, ils se disent finalement, est-ce qu'on veut vraiment de nous, oui ou non? Alors aujourd'hui, la population est en colère, les médecins généralistes sont en colère, et les gens qui doivent gérer le système de santé... On nous parle de virage ambulatoire, mais quand il parle de virage ambulatoire, ça s'arrête à la chirurgie ambulatoire. Mais tout le reste, les personnes âgées, les maladies chroniques, l'aide à accueillir un enfant dans une famille, tout ça, ça passe par-dessus la tête de nos décideurs. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, probablement, n'ont pas de médecin généraliste traitant. Et il faut aujourd'hui comprendre que soit on investit de façon massive et rapide sur la médecine de proximité, sur les soins primaires, avec un outil emblématique. Et alors tout le monde pense que quand il a prononcé le mot maison de santé pluridisciplinaire, il a rempli son contrat politique.
C'était Excusez-moi. Le cas hier soir lors du débat Absolument. Entre les différents
Excusez-moi,
candidats.
La seule Absolument. Différence entre eux, c'est le nombre de maisons de santé Exactement. Pluriprofessionnelles qu'ils veulent faire. Mais moi je dis, la maison de santé pluriprofessionnelle, certes, c'est l'outil le plus abouti dans l'organisation des soins primaires pluridisciplinaires, mais ce n'est qu'un des aspects. Et nous voulons développer l'organisation dans les territoires, dans chaque territoire de proximité, de ce qu'on appelle les soins primaires. Et les soins primaires, c'est de la médecine générale, c'est des infirmiers, infirmières, c'est des pharmaciens, c'est des kinés, c'est tout ce dont la population a besoin en proximité. Soit on investit là-dedans et la population aura la réponse à ses besoins, soit on n'investit pas et on n'y arrivera pas. Alors là, on a un trou de 10 ans, pendant lesquels, même si on forme plus de médecins, il leur faut entre 15 et 18 ans pour s'installer.
Donc les déserts médicaux, ça va durer jusqu'en...
Ça va pas durer, ça va s'aggraver jusqu'en 2025, nous dit le Conseil de l'Ordre des médecins. Et donc moi je vous dis, aujourd'hui il y a une solution, il n'y en a pas deux, il y en a une. C'est pas l'obligation de s'installer, c'est de libérer du temps médical et d'aider les médecins généralistes à faire leur boulot, d'aider les infirmières à faire leur boulot, d'aider les pharmaciens, d'aider les kinés, d'aider les sages-femmes, les orthophonistes, d'aider tous ceux qui sont aujourd'hui investis auprès de la population à dégager le maximum de temps pour s'occuper de la population.
On sera vieux en 2025, hein, Guy Valencien.
Ben oui, non, mais
je pense qu'on soignera.
Hein. Je suis d'accord avec Claude Léchère sur le fond, mais il y a un point où je ne suis pas d'accord, c'est que je pense qu'on peut déléguer tout de suite.
Mais on le fait déjà.
Mais on le fait déjà.
Mais
c'est pas autorisé.
L'État nous empêche de le faire plus que nous ne le voulons.
Oui, oui.
Alors allez-y.
Un problème de réglementation.
Nous avons 400 infirmières à Zalée aujourd'hui qui mettent dans le suivi des pathologies chroniques.
Voilà.
Il en faut pas 400, il en faut 4000, peut-être même 5000. Ce sont des infirmières libérales où parfois elles demandent à être salariées, c'est à elles de choisir et elles nous aident dans la prise en charge des patients. Mais moi, des patients chroniques, j'en ai plus que j'en ai besoin.
Voilà. Donc on a besoin aujourd'hui. Il y a des leviers mobilisables avant 2023.
Mais l'État ne veut pas développer ça. L'État nous contingente et l'État nous dit, etc., il n'y a pas d'argent. Mais à un moment donné, il faut se décider sur quoi on veut investir, sur la proximité. Ou pas sur la proximité.
Vous avez aussi un gâchis dont on ne parle jamais. 58 600 petits jeunes se sont présentés en première année de médecine. 58 600. On en prend à peine 8 000. Il y en a 50 000 qui restent sur le carreau. Faites le calcul à 10 000 euros, c'est 500 millions par an, un demi-milliard par an de jetés par les fenêtres. Voilà. Et pendant ce temps-là, avec le numerus clausus, on va chercher encore des étrangers pour remplir les postes qui ne sont pas fournis. On est dans un système de fous. Et là, le politique ne va pas le comprendre. Et j'abonde. Qu'on nous lâche, qu'on nous laisse faire. Pourquoi ces réglementations tatillonnent qui empêchent?
Et pourquoi?
J'ai des infirmières cliniciennes, comme Claude, qui utilisent des infirmières. C'est de l'or. Elles nous rendent 20 à 25% du temps de consultation qu'on peut consacrer à d'autres choses.
Mais parce que l'État a peur de l'initiative. Aujourd'hui, on est dans un pays suradministré. L'État a peur des initiatives. Qui c'est qui a créé les maisons de santé pluriprofessionnelles? Moi, la mienne, je l'ai ouverte en 2003, donc on l'a conçue en 2000. C'est nous qui sommes allés voir et nous avons rencontré, une fois n'est pas coutume, une approbation et une aide de la direction de la Sécurité sociale. L'État a peur de l'initiative et de la créativité.
Et vous dites toujours, ce n'est pas reproductible. Ce que vous faites, c'est très bien, mais on ne peut pas le faire national. On s'en fiche. Faisons du régional et du loco-régional.
Sur mesure.
Sur mesure.
Laetitia, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonjour, donc, merci de prendre la parole, je pensais pas passer ce soir. En fait, je voulais réagir par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure, donc j'ai un peu de décalage, par rapport à ce que vous disiez sur le fait de faire venir des médecins donc à la campagne, vous êtes installé, puisque vous disiez qu'il n'y avait aucune mesure incitative ni coercitive qui était efficace, et donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc moi, je suis jeune médecin généraliste, je me suis installée il y a un an à la campagne, et en fait, la solution, je pense, c'est surtout de faire sortir les étudiants en médecine de l'hôpital. Le problème actuellement, notamment pour un médecin généraliste, c'est qu'il fait quasiment toutes ses études à l'hôpital, et il découvre la ville, l'extérieur de l'hôpital, très tard ou très peu. Même si là, actuellement, les choses changent, c'est encore très très minime. Et si vous voulez que des gens s'installent des hôpitaux, il faut qu'ils viennent avant pour découvrir ce que c'est. Et pour ça, il faut qu'ils fassent des stages, il faut qu'on les sorte de l'hôpital. Et sans ça, on n'y arrivera pas. C'est voilà. Moi, je me suis installée parce que j'ai fait des stages à l'extérieur.
Et vous êtes heureuse, Laetitia, contente?
Complètement. Oui, oui.
Ça s'entend.
Pour rien au monde.
Et vous avez beaucoup de travail ou pas?
Ah bah alors là, je pourrais travailler 7 jours sur 7, 24 sur 24 si je le voulais, mais après c'est à chacun de faire son emploi du temps et de faire comme on souhaite, on peut après se répartir. Je me suis installée avec des personnes avec qui je m'entends très très bien, j'ai une qualité de vie qui est exceptionnelle et honnêtement je souhaite à tout étudiant en médecine après de s'installer comme moi dans des conditions où je les ai faites, quoi.
Merci beaucoup Laetitia pour cette intervention. Claude Léchère, Guy Valencien qui veut réagir. Alors, Claude Léchère.
D'abord, je suis très heureux d'entendre Laetitia parce que je m'y retrouve 35 ans auparavant et bravo à elle. Et puis elle donne aussi une image positive de son métier. Elle donne une image positive de l'installation. L'hôpital n'aime pas la médecine générale. Les enseignants d'hôpital universitaire, le milieu enseignant n'a jamais aimé la médecine générale. Pourquoi? Parce qu'il la pratique pas, il l'aime pas, il la connaît pas. Il considère que c'est une médecine qu'on choisit par défaut.
Dommage parce que c'est une très belle discipline.
C'est plus que dommage parce que vous verriez ce que nous racontent les internes de médecine générale quand ils se sont déclarés internes de médecine générale dans un service de spécialité. Attention parce que c'est pas tous les jours facile la vie d'un interne. Et donc, je dis aussi que grâce à des gens comme Laetitia, on donne une image positive, et c'est la raison pour laquelle, elle est une femme évidemment, tout le monde a compris, c'est une raison aussi pour laquelle nous avons dit, attention, les jeunes femmes médecins, elles veulent exercer leur métier, elles veulent des maternités, elles veulent des enfants, il faut améliorer la protection maternité, c'est ce que nous, AMG France, nous avons fait, parce que si vous ne faites pas aussi cela, si vous vous occupez pas aussi de la protection maternité, les jeunes femmes sont obligées d'attendre des fois 10 ans pour s'installer. Et là, nous essayons de raccourcir le délai entre la fin des études et l'installation en améliorant de façon conséquente la protection maternité.
Guy Valencien ?
Oui, moi aussi, je suis très heureux d'entendre cette conférence. J'ai fait de nombreux remplacements de médecine générale avant d'être chirurgien. Et j'ai adoré ce métier aussi. Mais le problème, effectivement, ce qu'a dit Claude Lécher est vrai, c'est que nous avons une formation universitaire centrée sur les spécialités. On n'apprend pas la médecine générale dans nos études. Alors, il y a maintenant une quarantaine de professeurs de médecine générale, mais ça a été d'une difficulté, mais il en faudrait beaucoup plus. C'est la première des médecines. L'Égypte ancienne le savait. Il y avait les Wabous et les Soanous. Et les Wabous étaient les médecins généralistes. Ils étaient adulés, ils exerçaient dans les temples, ils étaient riches, parce que le pharaon s'y intéressait. Et puis, il y avait les spécialistes. Le spécialiste des yeux, le spécialiste du ventre, le spécialiste de l'orthopédie et le spécialiste des maladies incertaines. Et eux étaient très mal payés, ils étaient dans la campagne.
Tu te rappelles ce que tu m'avais dit ?
Claude Lécher.
Tu m'avais dit, à Paris, il y a un enseignant en urologie pour un étudiant.
Oui.
Et là, tu viens de dire le chiffre, 40 professeurs titulaires en médecine générale pour...
Toute la France.
Non, mais pour combien d'étudiants ?
Au total
13 000 étudiants filière.
Mais oui.
Enfin, vous vous rendez compte de la façon dont on nous traite. Et après ça, on nous dit, mais pourquoi vous n'avez pas vous installer à droite à gauche ? Mais attendez, il faut tout reprendre à zéro.
Alors, les gens, je pense, en tout cas, on peut faire ce postulat, ne sont pas complètement givrés. Donc, pourquoi est-ce qu'on arrive à 40 pour 13 000 ?
Mais parce que les décideurs au ministère de la Santé sont des hôpitaux universitaires de spécialité. À chaque fois qu'on discute de médecine générale, ils ne nous invitent pas forcément. Là, il y a une réforme des études médicales. On est en train d'essayer de créer des filières qui vont, on va dire, prendre des étudiants qui avaient choisi la médecine générale pour aller faire autre chose. Mais c'est là que ça se décide. Le ministère de l'enseignement supérieur est un ministère qui déteste la médecine générale. Le ministère de la Santé essaye de nous aider. Mais franchement, le ministère de l'enseignement supérieur, c'est une catastrophe ambulante, ce ministère. Pour la médecine générale. Pour le reste, j'en sais rien. Mais pour la médecine générale, on nous ne donne pas les moyens, on crée des filières pour détourner les étudiants de la médecine générale et ça se décide maintenant dans les jours qui viennent. Et après ça, on va nous dire « Ah, mais il n'y a pas assez de médecins généralistes qui s'installent. » Mais je veux dire, on ne nous donne même pas les moyens de former les gens correctement. Donc moi, je veux dire, quand Laetitia nous dit « J'ai choisi la médecine générale », il faut vraiment qu'elle en veuille, Laetitia, et qu'elle aime beaucoup la médecine générale pour l'avoir choisie.
Merci à tous les trois. Claude Lécher, médecin généraliste, président de AMG France. Guy Valencien, chirurgien, membre de l'Académie de médecine. Ce débat à l'Académie le 23 mars des déserts médicaux aux oasis de santé. Merci Véronique, Julia. Énormément d'appels ce soir au standard du téléphone sonne. Le journal à suivre.